Aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, nous recevons Evelyne Couturier de l'Iris à qui nous demandons à quoi il faut s'attendre en 2013. En première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Cédric Leterme depuis l'Europe en seconde partie d'émission.
Le Grain de Sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tous, c'est Michel Monette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition, première édition 2013 du Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. En ce début de l'année 2013, que nous vous souhaitons à la hauteur de vos rêves et de vos espoirs, chers auditeurs, nous avons en studio Evelyne Couturier de l'Iris, avec qui nous allons échanger sur ce qui pourrait être l'année 2013 après l'écoute de la pièce « L'asile de flou » du groupe « Beauté vulgaire ».
Dans un asile de flou qui ne laisse pas sa chance au hasard, et on tombe dans la gueule du loup sans le savoir. Nous roulons pour les sens interdits, le pas aussi coulé qu'un pavé dans la mare, les yeux ouverts mais dans un puits. Il fait noir, on s'égare, on voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a devant, mais allons-y, allons-y vraiment. Quand on pose des pierres à l'édifice, sommes-nous pour autant architectes du temps? C'est ainsi qu'il faut que l'on bâtisse contre le vent. Chaque jour laisse des cicatrices, mais il faut marcher même clopin clopant. Et combien de plaqués de délices nous laissent hésitants? On voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Mais allons-y, allons-y vraiment. Dans un asile de flou, dans une opacité qui déchaîne les cités, et on lutte contre les coups de mou, manière de résister. S'il y a des lois, on ne peut pas tout prévoir. S'il y a des routes, rien ne vaut les chemins. Il y a des fois où tout est dérisoire, il reste le doute et demain. S'il y a des lois, on ne peut pas tout prévoir. S'il y a des routes, rien ne vaut les chemins. Il y a des fois où tout est dérisoire, il reste le doute et demain. On voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Mais allons-y, allons-y vraiment. On voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Mais allons-y, allons-y vraiment.
C'était Beauté vulgaire qui nous chantait L'asile de flou. Evelyne Couturier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci beaucoup.
Lynn, vous êtes rattachée à l'IRIS. C'est d'ailleurs la deuxième fois que vous participez à notre émission.
En effet.
À ce titre, et nous vous en remercions. Peut-être brièvement rappeler à nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est l'IRIS.
L'IRIS, c'est un institut de recherche. En fait, c'est le nom au long, c'est Institut de recherche et d'information socio-économique. Donc, c'est un institut qui s'attarde aux questions économiques, conjoncturelles économiques, un peu politiques aussi, particulièrement dans le cas du Québec. Donc, on a fait des études, entre autres, sur la gratuité scolaire, sur l'impact des PPP en santé, sur les différentes modes de gestion et de gouvernance en éducation, en santé, sur les écarts entre les riches et les pauvres. Donc, c'est assez large et assez large. Et on fait des publications à peu près une fois par mois qui sont disponibles. Toutes nos publications sont disponibles gratuitement sur notre site Internet.
Oui, d'ailleurs, on avait reçu Julia Pasca, Julia Pasca. C'était fort intéressant là, sur toute cette question.
Sur l'endettement, mais aussi sur les agences
de notation, oui. Voilà, c'est ça.
Oui.
On a l'impression de vivre dans un asile de flou. Pour reprendre le titre de la chanson des Beautés vulgaires ces temps-ci, avec une crise qui semble installer à demeure, qui n'est pas une crise économique. D'ailleurs, quand on a demandé au philosophe Michel Serres, finalement, si la crise allait bientôt finir, il a répondu, sa réponse a été de dire qu'il ne savait pas. Évidemment, il n'est pas économiste, Michel Serres. Il dit, je ne sais pas, je ne peux pas. Mais, par contre, il a dit aussi, il a ajouté, et ça, c'est fort intéressant, on est omnubilé par l'économie. On a vraiment l'impression, d'ailleurs, l'économie a pris une place énorme. On pense la crise qu'en termes économiques, mais il y a tellement de choses plus importantes qui nous mettent en crise. La dernière, c'est Idol No More. On a eu aussi avant le printemps érable ici, évidemment, on a eu tout le mouvement Occupy, on a eu le mouvement des indignés. Tous ces mouvements ont fait un amplificateur commun, c'est les médias sociaux. Pour Michel Serres, d'ailleurs, les nouvelles générations sont dans l'ordinateur, comme il le dit, hein, il parle de la petite poussette. Est-ce que les médias sociaux vont demeurer un acteur majeur en 2013?
Je pense que oui, mais je veux juste revenir un peu parce que tantôt vous parliez de Michel Serres n'est pas un économiste, mais j'aimerais quand même rappeler que les économistes ont essayé à maintes reprises de faire des prévisions sur quelle serait la durée de la crise, comment on s'en sortirait, et ces prédictions ont pas mal toutes échoué. Donc, il y a une part aussi et on vient un peu à cette idée que l'économie c'est la chose la plus importante, l'économie est rendue la science des relations entre les gens, parce que chaque relation, au final, c'est un coût-bénéfice et tout. Mais en fait, on se rend compte que cette analyse-là ne fonctionne pas, ne tient pas, ne permet pas de faire une projection à long terme. Donc, il faut faire attention avec l'économie, mais pour revenir à la question réelle sur les médias sociaux, c'est sûr qu'il y a un changement, quasiment un changement de paradigme dans la manière où on interagit les uns avec les autres, la manière qu'on sait des choses aussi sur les gens qu'on connaît ou qu'on connaît virtuellement. Une anecdote comme ça, je suis allée prendre une bière avec un ami et il connaissait tellement de choses de ma vie que je n'y avais jamais raconté parce que on était mis sur Facebook.
Ah ouais.
Et c'est
c'est un peu épeurant.
C'est un peu épeurant, mais en même temps, les choses qu'on choisit de mettre sur Internet, bien, il faut être quand même conscient que c'est une vitrine qui est accessible à plusieurs personnes. Donc, c'est des choses avec lesquelles j'étais à l'aise qu'ils connaissent. Mais il y a ce rapport aux autres qui est en train de changer. Et même si Michel Serres parle de cette petite poussette qui serait la génération qui aurait débuté dans les années 80, qui aurait dans la trentaine et en bas, on est encore en train d'essayer de comprendre comment on réagit les uns aux autres, justement, quelle information on donne, de quelle manière on la donne, qu'est-ce que ça veut dire une relation virtuelle. Il y a longtemps que ça existe, le chat et tout, depuis le début de l'Internet. Et il y avait déjà des relations, parfois même amoureuses, avec des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, mais qu'on sentait un certain attachement. Au départ, on regardait ça un peu de manière étrange, mais plus ça va, plus cette dynamique-là change et qu'il faut s'adapter à ça. Donc, je pense que dans la prochaine année, dans les prochaines années, les réseaux sociaux vont continuer à avoir un impact important sur notre rapport social aux autres et donc à la politique, à l'économie, un rapport qui est très global.
Oui, parce que Idol No More est un bon exemple. Il y avait à peu près rien dans les médias traditionnels. Et là, tranquillement, pas vite. Bon, évidemment, il y a la chef, dont j'oublie le nom.
Teresa Spence.
Teresa Spence qui a entamé une grève de la faim, mais il reste que le mouvement a été porté par les médias sociaux et de plus en plus il prend de l'ampleur dans le monde à travers les médias sociaux.
Ça donne vraiment l'impression que les médias ont attendu jusqu'à temps qu'ils n'aient pas le choix de réagir, pas le choix de retransmettre cette information-là. Et je trouve que pendant la grève étudiante, il y a eu aussi ce rapport-là. Ouais. Les médias qui essayaient de minimiser l'impact des étudiants, minimiser le mouvement, ce n'est qu'une minorité, c'est presque rien, ils vont se tanner, ça ne marchera pas. Et les médias sociaux et les gens dans la rue ont fait que ce mouvement-là, on ne pouvait plus l'ignorer. Je pense par exemple à ce que les étudiants scandaient, crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Et j'ai l'impression que les Autochtones, c'est la même chose. Ils prennent la rue, ils manifestent, ils prennent les réseaux sociaux, ils font que ce peuple-là, en fait, ces peuples-là, ces nations-là, qu'on avait tendance à oublier, ignorer, minimiser, mais là, on se rend compte qu'ils existent à travers le Canada et qu'il y a une force là-dedans qui n'est pas juste une force passive comme on les reléguait toujours avant.
Oui, tout à fait. Ils nous rappellent l'importance de respecter les traités aussi en passant. On fait des traités de libre-échange avec plein de gens, plein de pays à travers le monde, mais on ne respecte même pas les traités qu'on a fait avec les Premières
Nations. Non, oui, il y a ça, mais aussi les traités, quelque chose que les Autochtones peuvent nous rappeler, c'est que les traités sont toujours écrits ou sont majoritairement écrits pour avantager une partie plutôt que l'autre, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte avant qu'il soit trop tard. Mmh. Et pour ce qui est des traités, par exemple, le traité avec l'Union européenne, ben, on parle de laisser aller, d'ouvrir au marché plusieurs domaines qu'on préférait garder auprès de nous ou plusieurs valeurs qu'on préférait garder, par exemple l'achat local et tout. Et là, on est en train de faire des trade-offs, que je dirais en anglais. Ouais. Puis on ne mesure pas la portée avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est une autre leçon qu'on pourrait tirer des traités qu'on a fait avec les Autochtones où on a fait exactement la même chose. Mais là, à ce moment-là, on était les dominants. Donc, on leur a dit, signez ça, vous allez voir, ça va bien aller, on vous donne plein d'avantages. Et eux autres, de bonne foi, ils ont dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que je ne vous ferai pas confiance? Puis là, maintenant, ben, on voit ce que ça l'a donné.
Oui. Voilà, d'ailleurs, traité de libre-échange avec l'Europe, on pensait que ça allait se régler avant la fin de 2012. Là, on parle d'ici quelques mois. Ça va avoir un impact quand même, ce traité-là.
Ça va avoir un impact qui est très important, notamment en santé, en éducation, mais comme je disais tantôt aussi, avec toutes les politiques d'achat local, c'est de ramener encore cette impression-là que tout est un rapport coût-bénéfice monétaire. Alors, bénéfice, on ne parle pas d'avoir une communauté qui est plus en santé, une communauté qui est plus heureuse, mais une communauté qui est plus riche. Alors, à ce moment-là, tout va bien. Donc, à mon avis, dans les prochains mois, prochaines années peut-être, on verra combien de temps que ça prend parce qu'il y a toujours des reports. Ouais. À mon avis, il va y avoir une mobilisation qui va être faite aussi à ce propos, non seulement au Québec, au Canada, mais aussi en Europe, parce que aussi en Europe, il y a des tensions sur les mêmes points qui nous font un peu peur.
Oui, d'ailleurs, il y a le traité avec la Chine aussi, c'est quand même incroyable,
hein, oui.
qui a un lien avec Idle No More en passant. Hein,
oui,
tout à fait. On peut pas ignorer l'économie quand même, faut en parler. Est-ce qu'on peut anticiper au plan économique une année difficile?
C'est très difficile à dire. Comme j'ai dit, les économistes dans les dernières années sont allés de prédictions. La crise économique, personne ne l'a vu venir. Et les personnes qui l'ont vu venir se sont fait traiter de fous jusqu'à temps que ça arrive. Et ces fous-là ont prédit plein de choses après ça qui ne se sont pas réalisées. Donc, c'est vraiment très difficile de voir où on s'en va avec ça. La crise économique, c'est une crise qu'on vit présentement, c'est une crise qui est une reconfiguration de plusieurs aspects. Je pense, par exemple, aux États-Unis, où ils ont leur falaise fiscale et où l'économie est basée sur la consommation. On se rappelle, après le 11 septembre 2001, ce que le président a dit, c'était pas « rassemblez-vous, unissez-vous, travaillons ensemble », c'était
« consommer,
dépenser, ouais. Allez-y dans les magasins, ouais. on va régler ça ». Et cette économie-là qui est basée sur la consommation, fait que c'est une économie qui est de plus en plus basée aussi sur les importations. Et qui dit importation dit ben, donner du travail à l'extérieur, sous-traiter un peu le travail et encourager les économies qui est capable de fournir du matériel à plus bas prix. Ce qui fait qu'il y a une drôle d'effet circulaire avec l'économie américaine et notre économie aussi, parce qu'on se réfère beaucoup à l'économie américaine, qui est de favoriser la consommation, demander aux gens de consommer, inviter les gens à s'endetter de plus en plus, mais en faisant ça, on affaiblit un certain marché de l'emploi, on amène les gens à avoir des salaires de plus en plus faibles pour qu'ils soient compétitifs sur le marché de la consommation, ce qui les fait endetter encore plus, ce qui amène des gros problèmes, ce qui amène la crise immobilière entre autres, ce qui fait, bon, tout ça. Mm-hmm. Donc, voir une sortie de crise, c'est difficile parce que c'est un changement de paradigme économique, encore une fois, qu'on aurait besoin. Il faudrait revoir comment on se réfère à l'économie, comment on voit nos dépenses, comment on associe notre statut social à nos dépenses. Donc, c'est vraiment comme un grand bouleversement qu'il faudrait pour pouvoir sortir de cette crise-là. Et là-dessus, je rejoins Michel Serres qui disait que ce n'est pas simplement une crise économique ou une crise, nommons toutes les crises, sociales, personnelles, whatever, c'est pas simplement une crise, c'est vraiment un changement, c'est une révolution. Et cette révolution-là, il met le début dans les années 60, on est encore dedans et je pense qu'on va être encore dedans pendant plusieurs années avant qu'il y ait une reconfiguration politique, économique et sociale qui nous permette de sortir de ce moment de crise qui est un moment de convergence de toutes les crises en même temps.
Oui, avant qu'on passe à autre chose que le capitalisme, finalement.
Faudrait peut-être y penser.
Oui. Sur le plan social, on a eu la lutte contre les frais de scolarité. Bon, évidemment, il y a eu tout le printemps érable qui est bien au-delà de cette lutte-là, mais c'était quand même le cœur de cette lutte-là. Est-ce que ça risque de reprendre ou si ça va se poursuivre, le calme va se poursuivre?
C'est très difficile de parler au nom des étudiants qui ont vécu un printemps et un été qui étaient assez mouvementés, surtout le printemps. Donc, c'est très difficile de se positionner sur leur futur mode d'action. Puis, je pense aussi que c'est plus facile de parler des mouvements qui sont plus loin de nous, dans d'autres pays, par exemple, parce qu'on a une vision globale qui est un peu plus facile. Mais là, présentement, avec le nouveau gouvernement, avec l'opposition, la nouvelle opposition aussi, avec la fatigue des étudiants et tout, c'est très difficile à dire, mais ce qui est clair, c'est que le sommet, de la manière qui a été configuré par le Parti québécois, c'est un sommet qui est là pour pousser et faire accepter l'indexation. On nous dit que c'est un endroit où est-ce que toutes les idées vont être acceptées, mais ça a été long avant qu'on nous dise que la gratuité était une idée qui était possible d'avoir dans le sommet. Mais en gros, c'est vraiment de nous faire accepter, de nous faire évaluer l'indexation comme le compromis, comme la meilleure décision à prendre. Donc, les étudiants qui s'engagent là-dedans, de ce que j'ai vu, les échos que j'ai pu entendre, c'est difficile parce que ils ont des choses à dire, ils ont des craintes à faire peur au gouvernement, notamment avec l'économie du savoir, avec la gouvernance dans les universités, avec les frais de scolarité aussi, l'accessibilité, etc., la qualité des études. Et ils ont peur et c'est un risque que le sommet soit finalement un gros bonbon très, très sucré, mais en fait assez vide en calories pour pouvoir vraiment avoir une réflexion sur l'éducation puis de vraiment travailler à un consensus qui ou à un nouveau choix collectif. Et ça, il faut faire attention avec le consensus, le consensus comme meilleure décision possible. Les gouvernements font des choix qui sont impopulaires, ils font des choix qui ne font pas plaisir à tout le monde, mais c'est le travail du gouvernement de dire, ben collectivement, nous, on pense que c'est la direction qu'il faut aller prendre. Ça va pas faire le bonheur de tout le monde, mais on pense qu'au final, c'est ça qui va faire qu'on avance ensemble. Et c'est à cause de décisions impopulaires et difficiles qu'on est où on est présentement. C'est à cause de ces décisions-là qu'on a un système de santé qui est public, qu'on a un système d'éducation qui est quand même moins cher qu'ailleurs, qu'on a le système social qu'on a. C'était des décisions qui ne faisaient pas l'unanimité, mais qu'on a réussi à mettre en place, qu'on a réussi à vendre, qu'on a réussi à adopter collectivement. Donc, il y a un travail aussi de la part du gouvernement d'accepter de prendre des décisions.
Oui, mais c'est quand même pas évident parce que c'est un gouvernement minoritaire.
C'est sûr que c'est un gouvernement minoritaire, mais malgré le fait qu'ils étaient minoritaires, le Parti conservateur au fédéral a réussi à faire plusieurs choses, réussi à mettre en place certaines structures ou de paver la voie à certaines décisions, de montrer que leurs valeurs étaient différentes, puis de tendre vers des décisions et tout. Et le gouvernement péquiste, présentement, ne semble pas être prêt à faire la même chose. On dirait qu'ils ont tellement peur d'ailleurs, de se mettre à dos l'opposition, qu'ils n'osent même pas tirer un peu la couverture de leur bord juste pour voir. Et chose certaine, depuis qu'ils ont été élus, il n'y a aucun moment où il y avait vraiment une chance de se faire tomber. Il n'y avait aucune chance qu'on retourne en élection en 2012. C'était hors de question pour tout le monde. Ils n'ont pas profité de ce moment pour pouvoir mettre en place certaines décisions qui pourraient leur aller chercher les décisions politiques vers leurs propres valeurs. Ils n'ont pas pris ce pari-là. Donc, faut voir, là.
Oui, exactement. Petite anecdote en passant, hier, j'étais au spectacle des apartistes et ils ont fait Marceau en mime Marceau et c'était incroyable de voir celui qui mimait reculer comme Marceau l'a fait finalement.
Oui. Oui.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des élections en 2013?
C'est difficile à dire. Si vous m'aviez posé la question il y a 3 mois, c'est sûr, je vous aurais dit en mars 2013, on s'en va en élection, il n'y a pas de problème. Mais de ce que je vois de la course à la chefferie du Parti libéral, ça me semble beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais pensé au départ. Donc, une fois qu'il va y avoir un nouveau chef libéral, je ne pense pas que le parti va être déjà prêt à se lancer en élection. Il va y avoir une phase de consolidation qui devra arriver. Et avec les choix que le gouvernement fait à date, s'il continue dans cette voie-là, en fait, il y a des chances qu'il n'y ait pas vraiment matière à faire tomber le gouvernement. Par contre, c'est fort possible aussi qu'ils ont fait tout leur compromis en 2012 pour en 2013 dire « Maintenant, on est prêt, justement, vous êtes en position de faiblesse, mais vous avez un chef, donc on peut se permettre de partir en élection. » C'est à voir, mais je mettrais, si j'avais à parier aujourd'hui, je dirais peut-être printemps 2013.
Ah oui?
Automne 2013,
automne 2013, oui, effectivement. Oui, mais si le Parti québécois réussit à jouer avec l'opposition, comme vous l'avez dit, dans le cas des conservateurs, ça a été leur force, là, de vraiment jouer avec l'opposition pour réussir à obtenir l'appui au moins d'un des deux partis et de se faufiler à travers tout ça. Bien, Evelyne Couturier, merci beaucoup. C'était tout le temps dont nous avions. On aurait pu continuer à parler encore longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Ça me fait plaisir.
Et on se souhaite une année 2013 quand même où on pourra avancer. On souhaite de toujours continuer d'avancer à travers tout ça. Et merci, à une prochaine.
Merci beaucoup et bonne année à tout le monde.
Merci.
Capable de cesser de crier ce qui est injuste. Regarde notre réalité et les mensonges qu'on nous incruste. J'ai pas la force de comprendre toute cette discrimination. J'ai la force et le courage de crier pour ma nation. Il est temps qu'on avance, qu'on se rassemble pour la cause. Qu'on arrête de se détruire par l'alcool et la coke. Qu'on leur prouve qu'on est des hommes, qu'on est fiers de qui on est. S'ils nous traitent de sauvages, on s'en fout, on est des guerriers. On n'a pas encore saisi toute leur mentalité. Car pour vous dire la vérité, ils ont essayé de nous déraciner. Ce que je trouve le plus lourd, c'est le visage des aînés. Ceux qui portent l'histoire et l'espoir des nouveaux-nés. Je viens briser le silence, la honte et la gêne d'un peuple invisible comme dirait Desjardins. Je parle encore de nos souffrances et dans mon sang, dans mes gènes. Comme nous a dit Kerry James, c'est le cri des indigènes. Je viens vous dire qu'on s'en sort mais les blessures sont immenses. Car une partie de notre histoire est enfouie sous le silence. Et je n'arrive toujours pas à croire qu'ici on nous ignore. Et quand ils en font des pays, ils ont préféré nous voir morts. Le gouvernement s'est excusé pour l'histoire des pensionnats. Ils ont signé des chèques pour nous protéger. prouver leurs échecs. Je peux vous dire que le mal est fait, c'est la souffrance qui nous achève. C'est une question identitaire, c'est nos souvenirs qu'ils achètent. Ils adhèrent à des lois pour essayer de nous faire taire. Mais nous on se souvient qu'on vit ici depuis des millénaires. Dans ce pays, on est des minorités, car ils refusent de signer la charte des droits et libertés. Ils nous ont même traités de créatures sans âme. Essaie d'imaginer un son pleureur sans larmes. Une forêt sans arbres, un monde sans armes. Moi je te jure que mes textes viennent du fond de mon âme.
Le 15 février 2013, CKRL aura 40 ans.
Restez à l'écoute.
Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Quécalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Quécalor. Tous les samedis 14h.
Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs.
Prochaine rencontre le dimanche 20 janvier, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire.
Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun.
Tous les samedis soirs dès 20h30, venez vous faire injecter votre dose d'illusions auditives. Au listing, prog, psychédélique, garage, pop, des années 60 à aujourd'hui. Prescription appliquée par Vincent Delille et Jacques Dulac, qui vous donne rendez-vous de 20h30 à 22h à CKRL 89.
Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, T et Lange, 67 René Lévesque Est, et au Dorsay, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant.
Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre.
L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu.
Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard.
Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.
CKRL.
The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait.
89.1.
So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again.
Québec.
E ni chiamo one, a bitch winning taguac, ni ta faci tu ne uida, ma che ani gac, guaya che tu gigadec, ni tagi gac, ni sa watching taguac, ni gamo una, ni mi squigac, taguan, e pitchi, a pitin da man, e gi do one, ni mini gun, gitchi mi coda man, a bitch winning ni gamo one, Le rap pour moi c'est beaucoup plus qu'un beat. Je m'en sers pour dénoncer les injustices de mon pays. Même si le beat j'ai dans le son, je veux un vrai mélomane. C'est sur les mots que je m'achante quand je rappe ou je slave.
Dans le fond, je crie tout haut, c'est que le monde pense tout bas. It's me against the world, comme dirait Tupac. Le rap pour moi, c'est plus fort que la politique. Car y'a pas de mensonge et c'est qu'on peut qu'on revendique. Le rap pour moi, c'est le cœur de ma réserve. Car je sens l'hypocrisie de ceux qui nous gouvernent. Et quand je le fais en algonquin, c'est pour que mon peuple puisse comprendre. Et je le ferai jusqu'à ma mort, pour que mon peuple se souvienne. Et là, je parle de gens tombés dans l'oubli. Les aïeux de ce pays, séparés de leur monde. Il paraît qu'au Canada, il fait bon vivre. Mais si on regarde les réserves, on compare au tiers-monde. Le rap pour moi, c'est plus fort que 400 ans. On n'a pas les mêmes souvenirs que racontent nos grands-parents. Pour les miens, c'est le début de la...
C'était Samian dans Le rap pour moi sur la compilation Face à la musique. On avait écouté juste avant la publicité, on avait écouté aussi de Samian Peuple Invincible. Et évidemment, si on met cette musique, c'est en lien avec Idle No More. On souhaite que nos gouvernements entendent raison et s'assoient avec les peuples autochtones pour régler des problèmes qui devraient être réglés depuis bien longtemps. Cédric Leterme, bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Pardon. Cédric, d'abord bonne année 2013.
Ben merci, bonne année à toi, bonne année à vous.
Vous avez l'avantage en Europe de la fêter 6 heures avant nous, 6 ou 7
heures. Exactement, oui. On a bien profité.
Vous avez bien profité, oui, nous aussi, au Québec, oui. Aujourd'hui, Cédric, tu vas nous parler d'un sujet, tu vas nous faire un peu un bilan on va faire un peu un tour d'horizon des différents pays européens, c'est cela?
Oui, c'est ça. En fait, je voulais faire un petit topo sur les principaux sujets chauds à suivre pour l'année 2013, puisqu'évidemment, il y en a plusieurs. Vous savez bien que la situation en Europe, elle reste extrêmement préoccupante pour l'instant. Elle ne devrait pas s'arranger dans l'année qui vient. Joseph Stiglitz, le fameux économiste américain, ancien prix Nobel d'économie, vient d'ailleurs de rappeler que pour lui, c'était bel et bien l'Europe qui continuait d'être la principale menace pour la bonne santé de l'économie mondiale. Il a sorti une tribune dans laquelle il était assez inquiet de la situation en Europe, même si l'Europe est loin d'être l'unique candidate au poste plus glorieux de pire frein à l'économie mondiale actuellement. Pour citer juste deux autres exemples rapidement avant de repasser au sujet plus européen, bon, on a vu les États-Unis qui viennent de nous montrer très récemment qu'ils avaient eux-mêmes la capacité de se mettre dans une très sérieuse impasse, et à leur suite évidemment l'ensemble de l'économie mondiale. L'accord qui est intervenu ici in extremis en début de semaine sur la fameuse falaise fiscale reporte en fait la plupart des problèmes au mois de mars, donc dans deux mois on va probablement assister au même théâtre avec les principaux soucis qui n'ont pas été réglés maintenant, qui devront être réglés à ce moment-là, donc de nouveau des grosses menaces. Et un autre exemple, c'est le Japon, pour citer un deuxième pays industriel qui va pas très bien, qui parvient toujours pas de son côté à trouver un moyen de relancer sa machine économique malgré des injections massives de liquidités dans son économie. Donc tout ça pour dire en fait que la crise reste bel et bien globale, mais l'Europe en constitue encore une fois un des épicentres les plus cruciaux. Il faudra donc prêter vraiment attention cette année à ce qui va se passer en Europe, et il y a beaucoup de choses qui vont se passer à mon avis.
Alors justement, quels sont les principaux points chauds qui s'annoncent en Europe en 2013?
Alors, les principaux points chauds, d'abord, on a évidemment toujours la situation qui est particulièrement dramatique des pays du Sud, ce qu'on appelle un peu la périphérie de l'Europe. On peut commencer par la Grèce, qui s'est toujours pas réglée. On en parle depuis des années, mais après 5 ans de récession qui a été principalement due à l'application de plans d'austérité d'une extrême sauvagerie, la Grèce est plus que jamais en ruine. Elle redécolle pas, malgré tout ce que l'on disait. C'est-à-dire qu'on nous disait elle va couler pour mieux remonter, mais là elle ne fait que couler, quoi. Le taux de chômage est toujours aussi catastrophique, plus de 35%, encore pire chez les jeunes. Et les résultats espérés, ou en tout cas annoncés sur la réduction de sa dette, sont absolument pas au rendez-vous. Sa dette n'arrête pas de se creuser. Donc ça démontre une fois de plus que la stratégie qui a été poursuivie d'austérité est ridicule, elle est stupide en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et elle est d'ailleurs de plus en plus contestée, même parmi ceux qui la défendaient avant. C'est-à-dire qu'on voit apparaître une tension grandissante au sein même de la Troïka. La Troïka, c'est cette espèce de concile qui réunit le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, et qui supervise l'application des plans d'austérité dans les pays européens qui ont demandé l'aide de l'Europe en échange de prêts. Et donc, au sein de cette Troïka-là, on voit le FMI d'un côté qui en appelle de plus en plus à assouplir la stratégie d'austérité, parce qu'il voit bien que ça mène droit dans le mur, et tandis que de l'autre côté, la Banque centrale européenne et la Commission, eux, gardent vraiment, quant à elles, une ligne inflexible. Ils veulent de l'austérité pure et dure, quand bien même les résultats leur démontre chaque jour que c'est profondément inefficace. qu'il faut dire, c'est que même l'Allemagne, qui défendait une ligne extrêmement dure et qui la défend toujours, a tout de même admis récemment au sujet de la Grèce qu'il faudrait probablement une nouvelle réduction de dette, ou en tout cas que ce ne serait pas à exclure. C'est évidemment la seule solution à ce stade-ci, non seulement pour la Grèce, mais pour la plupart des pays européens, si ce n'est tous. Mais ça va être extrêmement important à suivre si jamais il y a une nouvelle restructuration de la dette grecque qui s'opère, puisque ça va être important non seulement pour la Grèce et pour sa situation économique, mais évidemment ça va être très important pour tous les autres pays, ceux qui ont déjà demandé de l'aide et ceux qui pourraient le demander et qui sont soumis donc au dictat de la Troïka et qui pourraient dès lors revendiquer le même traitement de la Grèce. On pourrait donc avoir une amélioration à ce niveau-là, quoi.
Ouais, en passant, c'est ironique de voir le FMI prôner un certain assouplissement.
Oui, c'est assez drôle, mais en fait, bon, il faut dire que c'est les plus réalistes pour l'instant, s'ils se rendent bien compte que ça marche pas. Donc, ils remettent pas en cause la nécessité de l'austérité, mais ils disent qu'il faut se calmer un peu, parce que là, clairement, les résultats sont pas au rendez-vous et on est en train de tuer l'économie mondiale plus qu'autre chose.
Oui, il y a quand même eu un changement de garde, si je peux m'exprimer, au FMI, comparé aux années antérieures. Parmi les autres pays, il y a l'Espagne, dont on parle beaucoup aussi. Je pense que ça va continuer d'être le cas en 2013.
Oui, effectivement, l'Espagne aussi, il faudra vraiment suivre ce qui se passe là-bas. Elle continue de s'enfoncer dans la crise, toujours sous le poids du naufrage de ses secteurs bancaires et immobiliers. C'est vraiment ça qui a miné l'économie espagnole, avec ici encore un chômage qui est astronomique, qui est encore plus élevé qu'en Grèce. On parle de 50% de chômage, donc c'est vraiment une catastrophe sociale difficile à décrire.
Ah,
les enjeux sont multiples avec l'Espagne, puisqu'il s'il te plaît.
C'est énorme.
50%. Oui, c'est énorme. C'est vraiment, on a vraiment du mal à s'imaginer ce que ça peut représenter, hein, des taux de chômage pareils. Mais bon, c'est une catastrophe. Et bon, pour la jeunesse qui est vraiment la principale touchée, on parle d'une génération qui est plus ou moins perdue. Là, il va mettre des années à s'en remettre. L'Espagne, en plus, son importance au sein de l'Europe, c'est quand même une des principales économies de la zone euro. Donc on est là dans un ordre de grandeur qui est déjà nettement supérieur à la Grèce. Ceci dit, malgré les difficultés auxquelles elle fait face, l'Espagne a toujours pas fait appel à la Troïka pour l'instant. La stratégie qui a été suivie par le Premier ministre espagnol, c'est en fait de devancer les injonctions de la Troïka, d'appliquer lui-même une austérité extrêmement sévère à son pays, ce qui lui permettrait en fait après de sauver la face et de pouvoir négocier plus facile pour lui une éventuelle demande d'aide auprès de la Troïka. Le problème, c'est que tout ça se fait sur une crise sociale majeure, évidemment. On compte plus les manifestations monstres en Espagne, les grèves générales, et ça pourrait évidemment déraper à tout moment. Et il faut aussi noter la poussée nationaliste de la Catalogne qui est très importante. Et ce qui se passe en Catalogne, si ça devait évoluer dans ce sens-là, ça pourrait évidemment avoir des conséquences extrêmement sérieuses pour la scène espagnole, évidemment, mais pour la scène politique européenne, avec différents régionalismes, etc., qui pourraient profiter de l'exemple catalan pour essayer de poursuivre également ce même type d'agenda. Donc là aussi, c'est à suivre de voir ce qui va se passer au niveau de l'Espagne. Ça va être extrêmement important.
Oui, la Catalogne qu'on suit de bien près ici au Québec.
Bien sûr.
Et l'Italie?
Ah, l'Italie, là, c'est le troisième front principal de la crise au niveau des pays du Sud, et c'est peut-être même le premier en importance. En tout cas, ça pourrait très vite le devenir, puisque ici, on parle d'un ordre de grandeur encore supérieur. L'Italie, c'est la troisième économie d'Europe. Donc, si l'Italie coule, les conséquences seraient catastrophiques, même si la situation en Italie n'est pas encore au stade où elle est en Grèce ou en Espagne. Elle est très loin d'être rose. Et donc, si l'Italie croule, encore une fois, ça aura des conséquences absolument désastreuses sur le reste de l'Europe, et là, on rentrera vraiment dans une zone d'inconnu complet. Il faut dire que l'austérité frappe très fort en Italie, même si elle n'est pas sous le coup de la Troïka, elle applique tout de même les mêmes remèdes comme la plupart de l'Europe, sous le coup de l'injonction de la Commission européenne, hein, qui demande à tous les pays de faire pareil. Mais c'est surtout sur le terrain politique que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en Italie. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un an, Mario Monti avait remplacé Silvio Berlusconi à la tête de l'Italie, donc en tant que premier ministre.
Oui. Une véritable saga, cette histoire avec Berlusconi qui...
Voilà, exactement, ça s'était passé en pleine tourmente spéculative, donc face à l'attaque des marchés, finalement, c'est les marchés financiers qui avaient eu raison de Berlusconi, malgré sa kyrielle de procès, donc c'était assez ironique. Et donc c'est Mario Monti, ancien de Goldman Sachs, qui avait pris la tête d'un gouvernement dit d'experts, en gros, il était constitué uniquement de banquiers et de technocrates, des personnages non élus, donc ça avait été fortement dénoncé à l'époque par beaucoup d'associations, et sa charge était soi-disant de redresser le pays. Et là, Mario Monti vient juste de démissionner, en prétextant que sa mission était remplie. Donc on se demande un peu par quels critères il juge son bilan, mais en tout cas il estime que lui il a fait son boulot et donc il démissionne et forcément ça entraîne des élections très bientôt, et on peut dire qu'elles vont être plutôt animées, puisque d'une part Berlusconi a décidé de se rejeté dans l'arène politique. Il faut dire qu'il est de nouveau, il fait de nouveau face à plusieurs accusations en justice, donc ça lui permettrait, s'il est élu, de nouveau avoir l'immunité, donc ça doit probablement être une de ses motivations. Mais il se relance dans l'arène avec une ligne anti-austérité et anti-européenne assez inattendue. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. La gauche, à côté de ça, le Parti démocrate principalement, essaie de se reconstruire et va probablement tenir des primaires qui seront aussi intéressantes à suivre pour voir quel courant interne à ce parti-là va se dégager un peu et pourra proposer une solution dans le cadre de ces élections. Et puis on a Mario Monti qui essaye aussi de rassembler autour de lui des soutiens pour la poursuite de sa stratégie d'austérité. Il essaye en fait de se donner une petite légitimité, mais pour l'instant ça marche pas terriblement. Donc les résultats de ces élections-là vont être extrêmement déterminants, même s'ils sont profondément incertains pour l'instant, quoi.
Avant, on va passer à l'Allemagne, Cédric, mais avant, on va faire une brève pause musicale.
D'accord.
À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
Là, c'était un extrait de la chanson Apollinaire de Matanza, ce qui nous permet d'ouvrir une petite parenthèse, Cédric, si vous le permettez, pour souligner, pour parler d'Hugo Chavez, qui ne va pas bien ces temps-ci. On avait fait une entrevue avec Pierre Moutarde, justement, sur l'élection, la dernière élection d'Hugo Chavez, le jour même de l'élection. Et là, on apprend que, bon, il est possible qu'il ne soit même pas intronisé comme président. C'est un homme politique controversé, mais on peut dire quand même qu'il a beaucoup fait pour son peuple. Si on en revient maintenant à l'Europe, avant la pause, tu évoquais les futures élections en Italie, les conséquences qu'elles auraient pour l'Europe, mais il y a une autre élection qui va se révéler cruciale, c'est l'élection en Allemagne.
Oui, tout à fait. C'est évidemment l'autre tout grand rendez-vous électoral de 2013 en Europe. Et il va être extrêmement décisif, évidemment, puisque ici, c'est Angela Merkel elle-même, qu'on ne présente plus, hein, Angela Merkel, qui est la chef de file de la ligne austéritaire, donc austérité et autoritaire la plus dure en Europe, qui va donc devoir se présenter devant les électeurs allemands pour obtenir un nouveau mandat. Donc c'est évident que toute l'Europe va avoir les yeux rivés sur cette élection-là. Les conséquences sont extrêmement importantes pour la suite des choses ici. Et autant dire que rien n'est joué pour Angela Merkel à l'heure actuelle. Son parti, on en avait déjà parlé, je l'avais déjà évoqué dans certaines de mes chroniques, son parti a subi quelques revers récemment dans différents scrutins intermédiaires, des scrutins locaux, etc. Et donc ça pourrait, il y en a beaucoup qui estiment que Angela Merkel pourrait bien être la prochaine victime d'une crise économique qui ici en Europe s'est pratiquement systématiquement traduite sur le plan électoral par la défaite du camp au pouvoir, en fait. Donc c'est peu importe que le camp pouvoir soit des socialistes ou ce soit la gauche ou la droite, peu importe, systématiquement quand il y a eu des élections, c'est très généralement l'opposition qui l'a remporté, ce qui signifie de un ras-le-bol extrême de la part des populations, mais aussi une forme de désorientation, parce qu'en Espagne par exemple, ils ont voté pour éjecter les socialistes qui avaient commencé à appliquer une politique d'austérité assez dure, mais ils ont voté pour la droite espagnole qui applique exactement la même politique, si ce n'est en pire. Donc il y a là une espèce de contradiction au niveau niveau de l'Europe, en tout cas un manque de choix qui se traduit, mais en Allemagne ça pourrait quand même voilà, faire l'objet ou en tout cas susciter un profond bouleversement. D'ailleurs, si les Allemands pour l'instant semblent rester en majorité favorables à une ligne stricte en ce qui concerne la dette et le contrôle des finances publiques, ça c'est un fait que beaucoup de sondages tendent à prouver, ils commencent quand même à ressentir assez durement les effets de la crise économique avec leur PIB qui stagne, hein, évidemment, puisque toute l'Europe est en récession ou presque. L'Allemagne va finir par y tomber, ou en tout cas elle peut pas vraiment tirer son épingle du jeu comme ça indéfiniment. Et ça, ça a des conséquences extrêmement importantes dans un pays qui a construit son succès sur un creusement inouï des inégalités et sur une grosse précarisation de sa population et de sa force de travail. Donc là encore, ça va être un rendez-vous, je le répète, hein, mais ça va être extrêmement essentiel pour la suite de l'Europe. Et donc on aura probablement l'occasion d'en reparler ici à l'émission.
Justement, au niveau européen, cette fois, où est-ce qu'on en est avec les multiples projets de réforme engagés pour sortir de la crise et à quoi peut-on s'attendre cette année?
Alors malheureusement pour l'instant on peut surtout s'attendre à plus de la même chose en fait, sans trop jouer les devins. Il faut dire que comme on voit la façon dont ça se passe depuis le début de la crise, ben les dirigeants européens ont plutôt tendance à n'agir qu'une fois qu'ils ont le couteau vraiment sous la gorge, et encore dans ces moments-là ils s'accordent généralement que sur des demi-mesures qui font que reporter la plupart des gros problèmes quoi. Or il se trouve que pour l'instant l'Europe connaît une accalmie, en tout cas sur le front financier, qui la pousse comme à chaque fois à remettre à plus tard les décisions importantes et les décisions qui devraient être prises, les sujets qui fâchent principalement. Donc on peut parler de la régulation du système financier qui fait du surplace, on peut parler de la question de la gestion de la dette, comment réduire cette dette, qu'en faire. Pour l'instant on la fait simplement rouler principalement grâce à la Banque Centrale Européenne. Un jour il va bien falloir s'y attaquer plus sérieusement. De la même manière, ce qu'on appelle pudiquement ici en Europe le déficit démocratique des institutions européennes, qui est un gouffre, hein, on en a déjà parlé aussi, on se rend compte que l'Europe semble absolument incapable de proposer autre chose que des grandes déclarations grandiloquentes, très impressionnantes, mais qu'une fois qu'il faut passer à l'acte, ça ne se traduit finalement par pas grand-chose de concret. Donc il va falloir voir un petit peu comment les choses vont évoluer, mais il me semble qu'au-delà de ce constat-là, de cette inertie des politiques européennes, ce qu'il va surtout falloir suivre, c'est l'évolution de la situation sur le terrain, de la situation économique concrète, réelle, et de voir si elle ne va pas finir par de nouveau forcer les dirigeants européens tout simplement à agir, comme ça a été le cas à chaque fois. Et évidemment, ils vont pas pouvoir le reporter éternellement. Et qui sait, peut-être que les gros remous sociaux qu'on assiste et qui se développent de plus en plus, notamment dans le Sud, mais aussi dans le Nord maintenant de plus en plus, et les différents rendez-vous électoraux et politiques dont on a parlé, qui s'annoncent, peut-être que tout ça va enfin permettre de commencer à modifier quelque part le rapport de force politique en Europe, pour voir se dégager des alliances susceptibles de proposer des solutions plus tenables et plus justes aussi à long terme, que ce soit pour les populations, mais aussi pour les enjeux environnementaux qui sont extrêmement importants et qui passent profondément au second plan pour l'instant. Donc c'est un petit peu l'espoir qu'on a pour 2013, mais à voir, quoi.
Eh bien, souhaitons-le, Cédric, c'est déjà le temps de la fin de votre chronique. On va suivre tout ça avec, évidemment, beaucoup d'attention en 2013. Merci beaucoup et à une prochaine.
Oui, merci, à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
C'était le nouveau gadget, le jouet du jet set. La bébelle addictive, l'objet de convoitise. L'irremplaçable outil qui a changé la vie et sombré dans l'oubli. C'était l'affaire à voir, c'était le cover du voir. C'était à la fine pointe, plus pointu que la pointe. C'était cool et branché, l'événement de l'année, et le boss fut zappé. C'est déjà du passé, dépassé, démodé. Désuet, suranné, passé date, rendu plate. C'est capote, c'est quétaine, c'est has-been, wannabe. C'est brûlé, révolu, c'est hard, on n'en parle plus. C'est fini, c'est classé, obsolète, périmé. C'est mort et enterré,
C'était le groupe Mes Aïeux avec la chanson Passé, dépassé. Ça, c'est sur la compilation À l'aube du printemps. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 et vous écoutez l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Nous en sommes rendus à la partie où nous vous suggérons des activités à surveiller au cours de la prochaine semaine. Ça, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action et la démocratie, c'est vous. C'est un calendrier produit par le réseau du Forum social de Québec-Chaudière-Appalaches. C'est www.réseauforum.org/grille-calendrier. Et si vous voulez savoir ce qui se passe dans la région de Québec, nous vous suggérons de vous rendre sur cette adresse. Nous mettons l'adresse sur notre blog, legraindesableqc.org, tout comme nous allons mettre évidemment le contenu, le balado-diffusion de cette émission, mais aussi quelques liens en rapport avec ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Entre autres, un article de Michel Serre, fort intéressant. C'est plutôt tranquille dans la prochaine semaine, ce qui concerne la région de Québec. C'est plutôt normal. J'imagine que c'est un peu comme cela, un peu partout à travers le Québec. C'est un peu normal. Les activités vont véritablement reprendre plus tard en janvier. Mais je vais quand même en profiter pour vous souligner une activité qui a lieu le 8 janvier. C'est à 19h. L'activité s'appelle l'alimentation vivante, manger bio et santé. Ça, c'est dans les locaux de Crac Bitume, au 798 12e rue à Limoilou. Ça, c'est pas très loin des locaux de CKRL. Et en cette période hivernale et de temps des fêtes, enfin, la période du temps des fêtes est passée, Crac Bitume présente une série de formations portant sur le thème de la santé. La formatrice, c'est Léa Charret, qui est fermière épicière à l'accommodation bio-agronome. Donc, comment manger bio, local et vivant? Parce que l'alimentation est à la base de notre santé, venez apprendre comment être mieux outillé pour une plus grande qualité de vie. Vous recevrez de multiples pistes de réponse au cœur des questions agroalimentaires grâce aux réflexions subjectives et conscientes de la formatrice. D'ailleurs, celle-ci définit sa formation comme un cours théorique et pratique d'économie familiale révolutionnaire. C'est déjà donc... On se dirige vers la fin de l'émission Le Grain de Sable. Merci à Evelyne Couturier de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique de Montréal. Merci aussi à notre chroniqueur Cédric Leterme. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation, vous vous rendez sur www.ckrl.com. QC.ca. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. D'ailleurs, il y a un lien sur notre blog www.quebec.attaque.org où les enregistrements sont aussi disponibles. Enfin, ils vont l'être. Ceux des émissions antérieures sont déjà disponibles et ceux de l'émission d'aujourd'hui vont l'être un peu plus tard dans la journée. Vous allez trouver aussi tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, c'est plutôt sur le site d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, justement, le grain de sable en un seul mot, qc.org, avec divers liens Internet de ce dont nous venons de parler. Nous avons aussi une page Facebook. Cherchez-y le grain de sable sur CKRL. Et nous avons aussi un compte Twitter, le grain de sable QC en un seul mot. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. Attaque Québec, je le rappelle, veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous aimeriez qu'on vous lise en ondes? Bien, c'est simple, écrivez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos opinions à l'adresse courriel suivante, legraindesable@hotmail.com. On se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Mon nom est Michel Lemonnette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, fin de semaine et semaine. Demeurez avec nous pour une heure tout en musique en remplacement de l'émission Conte de fées sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. À tout de suite!
Paraît que ton contrat achève, tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai bref. Tu vas manquer, pas juste moi. Comme ces filles dans les baraques, peuplées à mort dans le désordre, avec des cousins qui les traquent dans le garde-robe au bout d'une corde. Y'en a pas une qui se protège de rêver d'être seule avec toi. T'es attirant comme un beau piège, tes lèvres brillent comme un appât. Je veux te dire comment je me sens, je suis vraiment bien avec toi. T'es fin, t'es doux pis t'es veillant, t'as un beau sexe, je le veux pour moi. Les filles assoient font un cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège, aimer un blanc mouillé son nid. Je suis rêvée, ça les console, je te transmets leur gratitude. Et les aiguilles de leur boussole s'en vont la nuit pointée au sud. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand ils s'allongent auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici m'arrachent beaucoup, ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou. Et quand ils partent, ça leur fait mal. Sont pris dans un capteur de songe, à la coop, va donc savoir. Ils achètent de la poudre à mensonge, partent à la chasse aux idées noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cible. Toi tu m'as prise sans procéder, on aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, peut-être une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans te forcer, qu'il n'y a rien d'éternel ici-bas. Je sais parler comme ça c'est pas bon, faut m'excuser, j'ai fait de mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux.